c'est ma ferme conviction que tout compte fait de la situation, ici et maintenant chez nous, de facto, seul un ralliement et une action concertée et tenace de groupes chrétiens et chrétiennes, pas seulement en parole, mais en acte, sur le terrain, du jour au jour, des milieux de santé, pourrait nous sortir de cette impasse, renverser la vapeur et renouveler le souffle nouveau. Chez nous, je n'en vois pas d'autres, à moins que vous m'en proposiez d'autres. Je n'en vois pas d'autres que les chrétiens et les gens de bonne volonté qui sont capables de redonner à notre milieu confiance, espoir et de ramener des valeurs et des points de repère. Si nous ne bougeons pas, l'aggravation est certaine et accélérée. Et on ne peut plus se contenter de jouer par la bande ou par ricochet, il faut tirer droit au but. Le simple appel à l'humanisme et à l'humanisation, si bien fondé qu'il soit, ne nous suffit plus parce qu'il ne nous spécifie plus. Il s'est vidé de son sens, de son appel, de son mordant. Il a été revendiqué et adapté par ceux qui veulent combattre le christianisme. Et chacun y met son interprétation. Alors que, comme chrétiens, nous avons plus et mieux à offrir un humanisme qui a eu son modèle d'incarnation en Jésus et qui, à son exemple, nous invite à être plus hommes et plus femmes que jamais, et je dirais que les autres, et à force d'amour pour nos frères et pour Dieu, spiritualiser le temporel, le rendre plus vivable et plus rentable, et grâce à une climatisation de foi, de paix et de courage. Une fois nos preuves faites, c'est alors et alors seulement qu'on redonnera à nos frères et à nos sœurs le goût du Seigneur, le goût d'être enfant de Dieu, et ce que ça représente de le retrouver chez mon frère et chez ma sœur. La vraie fraternité, qui est le slogan le plus populaire de nos jours, exige un seul et même Père. Et nous l'avons. Jésus nous l'a révélé. Alors que les doctrines subversives, que ce soit le marxisme, le socialisme, le maoïsme, le trotskisme, le communisme, ont eu chacun leur père et ont changé de père assez souvent. La palisse nous dirait que pour transformer le monde, il faut trois choses. Savoir ce qu'on veut faire, rester solidaire, puis le faire. Permettez-moi de vous laisser deux prescriptions avec la mention répétatour, tant et plus. Ma première prescription, je la livre au milieu de santé en général, si nous voulons passer et faire quelque chose en tant que chrétien. La première chose, il nous faudrait un centre, je dis un lieu géographique, matériel, de rencontre et de concertation. Il est trop tard pour les chrétiens de retourner à l'ancien système des grandes associations confessionnelles d'infirmières, de cultivateurs, de ci et de ça. Encore moins aux grandes institutions et aux grandes structures. C'est trop coûteux et on ne le peut pas. Mais il nous faudrait avoir, au minimum, un pied-à-terre chrétien. Pignon sur rue. Un port d'attache connu. Une rampe de lancement avec une politique de porte ouverte, nos adversaires l'ont. Et quand nos adversaires viennent dans les réunions ou dans les lieux sur le terrain de bataille, ils se sont retrouvés en quelque part pour se concerter, faire leur stratégie, ils arrivent identifiés, ils arrivent programmés, alors que nous, comme chrétiens, nous arrivons avec notre bonne volonté, les bras pendants, On ne s'identifie pas même les uns les autres. On improvise, on s'éparpille quand on ne s'entrechoque pas les uns les autres. Donc, un lieu où, sincèrement, des gens de bonne volonté se livreraient à favoriser un entraînement, à donner un équipement, un ravitaillement à ceux et celles qui sont dans le combat spirituel chrétien. Moi, je dis toujours, quand je vois nos chrétiennes actuellement, on est sur un champ de bataille atomique, puis on se promène là en petite tenue avec un tumouche. On se demande sur quoi frapper. On n'est pas plus équipé que ça. Combien de chrétiens et chrétiennes, et vous êtes peut-être de ceux-là, qui un bon jour dans leur milieu, avec la grâce du Seigneur, sont dit, ben là, je m'affirme. Et tout à coup, quelqu'un a fait boum! Qu'est-ce qu'on répond? On se fait dire, ben voyons donc, la foi, c'est fini, c'est vieux jeu, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qu'on répond? Et on est complètement désarmé. On se fait accuser de rompre la solidarité. Qu'est-ce qu'on répond à quelqu'un qui nous dit qu'on rompt la sainteté? Quelqu'un qui nous dit, ben, au nom du pluralisme, accepte les opinions des autres. Sous-entendu, donne pas la tienne. Qu'est-ce qu'on répond? Qu'est-ce qu'on fait? C'est un combat spirituel moderne. Il faut être équipé à la moderne. On ne l'est pas. Il faut que quelqu'un nous aide. Nos adversaires ont 12 de refrains qui nous servent. Et puis, on n'a rien à répondre. Et je suis sûr, parce que pendant 15 ans, j'ai enseigné des cours sur le marxisme et le communisme à l'Université de Montréal. Et j'ai toute une bibliothèque. J'ai fouillé tous les ouvrages possibles. Leur répertoire s'arrête après 12 ou 12. On aurait les réponses à ça, puis on aurait, nous autres, des refrains. Et on prendrait l'initiative. Mais on n'est pas. On n'a pas vu. Mais on pourrait. Une deuxième chose, il faut refaire la solidarité fraternelle entre ceux et celles qui sont prêts à se laisser mobiliser. La fraternité puis la communauté chrétienne entre chrétiens, pour plusieurs, c'est optionnel, pour ne pas dire notionnel. Alors, c'est loin d'être opérationnel. Et tant qu'on n'en reviendra pas à la caractéristique du message chrétien, qui est ce « aimons-nous les uns les autres », cette solidarité dans le Seigneur, on sera faible. Un chrétien n'est pas fait pour être seul au monde, puis il n'est pas fait pour agir tout seul de son bord. Vous savez, une autre façon de procéder des communistes, vous savez que dans un pays, quand ils s'emparent d'un pays, le Parti communiste se fixe comme objectif 6% de la population. Jamais le Parti communiste n'accepte dans un pays plus que 6% de la population. Ça a comme résultat quoi, ça? Ça crée une sélection des militants communistes. Ça crée une discipline. Ça crée une fierté. Et la pire sanction, c'est d'être rejeté du parti par le Politburo. Mais avec 6%, fiers, disciplinés, bien trempés. Évidemment, ils prennent des moyens qu'on ne pourrait pas prendre, la force, mais réussissent à avoir de l'impact. Quand je parle de solidarité, de regroupement des chrétiens, je n'aime même pas 6%. Qu'on ait un 2%, un 1%, fiers d'être chrétiens, conscients de ce que c'est, solidaires, et vous allez voir les choses changer dans notre milieu. Et ça m'amène le troisième point de ma prescription, il faut passer aux actes. Sans y renoncer complètement, je dirais en jeu de mots, passons de l'art oratoire à l'art aratoire, du verbe à la gerbe. Moins de déclarations, puis plus d'exemplification, c'est-à-dire l'illustration par des exemples concrets de ce que c'est qu'être chrétien. Un peu moins de notionnel, puis un peu plus de motivationnel, pour prendre un terme de merchandising. Les chrétiens et chrétiennes que nous sommes, disons-nous-le, la parade est passée. la kermesse est finie. Nous devons quitter les estrades et cesser d'être de simples spectateurs. Si partisans et ardents sommes-nous, renoncer à notre simple pop-corn spirituel, descendre sur le terrain et entrer dans la partie de football, dans l'un ou l'autre des clubs. Pas chercher à être arbitre, marqueur ou simple cheerleaders, mais des athlètes, pour prendre l'expression même de Saint Paul. La partie se joue et se gagne sur le terrain. Nos congrès sont bienfaisants pour préparer ces stratégies, mais encore faut-il qu'après ces congrès, on se retrouve sur le terrain. La partie ne se gagne pas par les stratèges assis dans les gradins ou devant la télévision ou à leur pupitre de journaliste. Mais ce n'est qu'en athlète, pour paraphraser Saint Paul à la moderne, en se revêtant du casque de l'espérance et du salut, des épaulettes et des bourrures de l'audace chrétienne, du chandail de sa foi avouée et de ses azidas qui font courir en vérité et charité, que c'est là que les chrétiens d'aujourd'hui vont faire quelque chose. C'est d'ailleurs au jeu, au combat, dans la lutte seulement que les chrétiens peuvent réussir des bottés ou réaliser des touchés. C'est là encore, mieux encore, au jeu, au combat, que le chrétien va découvrir l'importance de faire « huddle », pour prendre une expression latine, se serrer les uns avec les autres, s'entendre sur des stratégies au lieu de se diviser, de faire des passes, de faire équipe, de faire vite et d'agir, disons en blaguant, de son vivant. Concrètement, je lance une parmi trois douzaines de solutions concrètes possibles. Ne vous arrêtez pas aux mots, tous les mots sont possibles. Mais je parle que nous devrions avoir ce que j'appelle des commandos d'évangélisation. Trouvez-nous, vous, mesdames, messieurs, chrétiens et chrétiennes des milieux de santé, un commando groupant 10, 12, 15 maximum. Grands médecins de réputation déjà établis et reconnus, des hommes en qui tout le monde a confiance, mais qui accepteraient de déclarer leur foi et ensemble penseraient à porter sur le terrain, sur le champ de bataille, leurs compétences, leur prestige au service du message chrétien. Trouvez-moi un commando groupant des administrateurs, des infirmières, des gens qui n'ont rien à perdre, si ce n'est qu'à avouer ce que les gens ne connaissent pas encore, et vous allez voir qu'ils vont obtenir leur cote d'écoute. Et pour un, je serai disponible à ce que nos deux fondations collaborent à de telles expériences pilotes. C'est comme ça que les chrétiens doivent agir aujourd'hui, style Marines, style Commando, où les gens s'identifient. Moi, X, docteur un tel, moi, sœur une telle, je mets mon prestige et je dis qu'on devrait revenir à certaines valeurs, etc., etc., etc. Si on avait fait ça plus tôt, on serait rendu beaucoup plus loin. Mais cherchons pas les coupables, cherchons les solutions. Ma deuxième prescription, je nous l'adresse à nous du Carrefour. Et au même moment où je dis « je nous l'adresse et je m'y implique », je commence à me demander, docteur, si j'ai renouvelé ma contribution. Ça se peut que je l'ai oublié. Mais j'étais membre et je veux être membre. Et je dis ceci, trois choses que je nous livre comme prescription, et j'y mets la dose maximale, tout en me rappelant le conseil de mon père quand j'étais jeune, puis il me disait, « Si tu veux dire des choses importantes dans la vie, dis-les toujours avec beaucoup d'amour, un petit peu d'humour, au bonjour, puis sans détour. » La première chose que notre carrefour des chrétiens mette résolument le Seigneur dans le cou. Le style d'église où nous voulons être une succursale sans bureau-chef est dépassé et désuet et voué à la ruine. Un nouveau style d'église est en train de lever de terre. Soyons donc d'avant-garde, mes amis. Et que le Seigneur, dans notre groupement, ne soit pas seulement un patron d'honneur, mais un président exécutif. Sinon, là, faisons-nous donc harakiri. L'Église est remplie de bonnes œuvres mornées. J'arrête d'écrire un ouvrage sur les bienfaits de l'euthanasie des œuvres en Église. Et si nous voulons être chrétiens et que le Seigneur soit dans le coup, eh bien, immédiatement, reconnaissons que comme chrétiens, on a non seulement les armes que tous les autres emploient, mais on en a encore des meilleures, des armes de prière. Et je me réjouis quand je vois le docteur qui annonçait là tout à l'heure, cette messe en fin de journée. Pour le bien des milieux de santé, le Seigneur peut octroyer plus de bienfaits dans cette demi-heure que dans tous nos échanges. Pourquoi? Il est le Seigneur de tous les temps et de tous les lieux, y compris le Québec. Avez-vous déjà remarqué, moi je n'étais pas avec vous au moment de la fondation, mais ça m'a frappé, la trilogie que vous avez choisie comme titre de cette association, Carrefour des chrétiens pour la santé. Et il y en a un qui s'est défini par une trilogie, Carrefour, je suis le chemin. Des chrétiens, je suis la vérité. Pour la santé, je suis la vie. Je pourrais ajouter à ça deux vérités choc rapidement. On n'est jamais neutre. Et ceux qui actuellement nous servent ce refrain dans nos milieux de santé, la neutralité, c'est pas vrai. On n'est jamais neutre en soi, on n'est jamais neutre par rapport aux autres. Secundo, le christianisme est radical. Pratiqué à 10%, 20%, 60%, il est plus ou moins efficace, plus ou moins attrayant et plus ou moins contagieux. Et quand on ne le vit pas en plénitude, il perd même pour nous sa valeur et sa force. Alors un chrétien, et nous sommes conviés à l'être par cette association, ne peut pas et ne doit pas se contenter de montrer ses couleurs peu à peu, à peu près, en ton pâle et lavé. Parce que ce faisant, on tronque la vérité. On fausse le dialogue avec nos adversaires. Et il n'est pas honnête en partant d'agir ainsi. Et ensuite, on est pris au piège de nos propres pirouettes, de nos propres finasseries, de nos propres compromissions, d'une image à refaire. Ayons, ici au Carrefour, je vous en prie, non seulement le courage de nos convictions, mais aussi celui de notre vocabulaire et de nos actions en tant que chrétiens. Deuxième suggestion, suscitons sans délai ce que j'appelle l'opération 364. Ce que nous faisons jusqu'ici, c'est excellent. Et je rends hommage aux fondateurs et aux cofondateurs et aux directeurs émérites du Carrefour des chrétiens. Bravo pour tous les bons coups faits jusqu'ici. Mais il faut faire encore davantage. On n'a pas le droit ni le luxe de rester en chemin sur notre appétit. cette opération 364, ça vous intrigue sans doute. Qu'est-ce à dire? C'est dire ceci. Après aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait les 364 autres de l'année, jours de l'année? Les chrétiens doivent être des conscrits. La tâche est grande, elle est longue, elle est possible. Encore faut-il un leadership. Il faudrait que le Carrefour... Je sais que c'est exigeant pour tous ceux comme vous qui se désarmez déjà beaucoup, si généreusement, mais il faut grandir l'équipe, il faut ce leadership à tout point. Je blaguais avec quelqu'un l'autre jour, j'ai dit, nous autres les chrétiens, on est habitués, on ship les affaires. Jadis, on était dans le followship, à la queue leu-leu, après ça dans le steamship à toute vapeur. Là, on est dans le leadership, on étudie, l'embourgeoisship. Il est grand temps d'arriver au vrai leadership, un leadership spirituel ascendant de nos chefs de file et professionnels que vous êtes. Troisième, posons des gestes concrets d'unité. Quand le Seigneur a dit « Aimez-vous les uns les autres », c'est à ce signe que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Il n'a pas voulu dire seulement à l'intérieur des associations, mais entre les associations. Je souhaite de tout mon cœur que notre Carrefour et le mouvement du renouveau chrétien des centres de santé, qui tient son congrès en septembre et réunit 400 à 500 personnes régulièrement, comme avec l'Association canadienne de la santé, qu'il y ait des liens organique de collaboration, qui respecte les diversités, les complémentarités. Mais si on n'est pas assez chrétien pour donner ce témoignage de solidarité, nos jours sont comptés. Et ce ne sera pas par nous, mais par d'autres, que le Seigneur changera le monde. Et quand je fais cet appel à l'unité organique entre nos associations actuelles, je le fais parce que c'est le message du Christ. Je le fais parce que c'est notre mission en Pax Vobis de susciter, de promouvoir cette unité dans la diversité, mais aussi parce que j'ai trempé avec certains d'entre vous dans notre fameuse aventure du regroupement des associations d'hôpitaux qui a commencé en 51 pour ne finir qu'en 61. Des chrétiens de bonne volonté, mais chacun voulait faire son affaire de son bord. Est-ce qu'on ne pourrait pas constituer une seule et même armée avec différents régiments qui se répartissent différentes tâches? À vous, dirigeants du Carrefour, de vous imposer, de ne pas nous imposer un éparpillement, un essoufflement, des multiplications de réunions, des excès de paperasse, mais d'arriver à ce que tous les talents de tous les chrétiens se coordonnent sur la plus grande gloire du Seigneur. Et je vois l'heure filer. Un reflet de lumière m'empêchait de voir que je l'ai largement dépassé. Je vous dispense de l'essai de pronostic et de prophylaxie. C'est serein. J'y crois. C'est possible. Et je passe immédiatement à la conclusion. Cette conclusion, je la veux double. La première conclusion, j'adopte le style commercial. Elle est un peu fantaisiste, mais vous allez voir qu'elle est encore réaliste. Vous l'avez sur votre feuille. Les chrétiens en art, AR, sont déjà là. Où sont les chrétiens en or, OR? Je l'ai regroupé de cette façon-ci pour mettre en parallèle 5 de nos défauts mignons actuels et 5 de nos qualités souhaitables pour l'avenir. Oui, les chrétiens en art sont déjà là. Ceux qui font bande à part sont bavards, en retard, froussards et pantouflards. On en a, on n'a pas besoin de recrutement. Vous savez comme moi qu'on a tendance à faire bande à part, face au monde, face aux autres, qu'on est trop souvent uniquement bavard, des beaux discours, des beaux projets, des émotions et des motions, mais peu d'action. On est généralement en retard dans nos œuvres d'Église, On arrive toujours par le dernier train, le lendemain de la veille, tout essoufflé. On est assez facilement froussard. Combien de nos chrétiens sont là, à se lever là, de leur chaise longue, puis à aller mettre le doigt dans l'eau de la piscine, puis à grelotter, puis à retourner s'asseoir au soleil. On a peur de se mouiller, on a peur de plonger, et parfois, les deux pieds sur le pouf. Alors, ce n'est pas ces chrétiens-là, mais on en a, qui vont changer le monde. C'est les chrétiens en or que nous sommes, disons-nous-le. Et quel est le chrétien en or? C'est celui qui adore, arbore, honore, collabore et restaure. Qui adore le Seigneur et Maître. Parce que c'est lui qui, de toute éternité, a fait le plan dans lequel je suis invité à m'insérer. Qui arbore sa foi. Fini le bal masqué. Il faut qu'on montre son vrai visage. Et qu'est-ce que c'est le vrai visage du chrétien? C'est celui que j'aimerais montrer éternellement. Troisièmement, celui qui honore ses engagements de baptiser, de confirmer ou de reconfirmer, qui collabore avec les autres et qui restaure son milieu et sa vie de travail. Ma deuxième conclusion, je vous la présente sous forme d'une injection de conscience, ou, si vous voulez, d'une ponction de notre colonne spirituelle. Une série de quelques interpellations interpellantes, mais très fraternelles, de nature à purifier nos motivations, nos objections d'ordre spirituel face à l'engagement ou au rayonnement chrétien. Milieu de santé, soigne-toi toi-même, ou prie pour ta guérison. Il est grandement temps. À quoi espérer sauver les autres si tu cours toi-même vers ta perte? Toi, travailleur de la santé, travailleuse de la santé, combien de temps encore seras-tu sourd, muet, aveugle et impotent chrétien face à ce qui se vit près de toi chaque jour? Pourtant, tu connais mieux et tu désires infiniment mieux. Comment peux-tu, plus longtemps, ne pas restaurer ce milieu qu'un jour, vraisemblablement, t'accueillera toi aussi comme bénéficiaire? Toi, professionnel et compétence reconnue, qu'attends-tu au juste pour t'engager ouvertement, directement sur le terrain, avec les autres? Crains-tu d'y perdre ta renommée? Et ta renommée, que vaudra-t-elle dans un milieu qui, de toute évidence, est en train de perdre la sienne? Redoutes-tu le ridicule des autres? Ne vois-tu pas ce qui s'écroule autour de toi? Ne crois-tu pas que plus tu attends, plus ça sera difficile d'enrayer les tensions, la démoralisation, la démobilisation de tes confrères et consœurs? Frères et sœurs chrétiens, combien de temps garderas-tu en toi et pour toi ces valeurs que le Seigneur t'a confiées pour les partager dans le monde? L'amour fraternel, l'espérance, le courage, la joie, la vérité, le respect des autres, la foi. Frères et sœurs laïcs, attends-tu que tout dans ta vie privée, conjugale ou sociale soit parfaitement clair ou en ordre avant de songer aux autres? Serais-tu plus sévère que le Seigneur et que l'Église, qui n'accorde la canonisation qu'à la fin de la vie et non au début? Si l'Église de sacristie t'a déçu, qu'attends-tu, toi, pour la sortir sur la place et la mettre bien en place? Et si cette Église, institution, t'a hélas blessé, déçu, scandalisé même, qu'attends-tu pour voler de tes propres ailes et être ce qu'elle aurait dû être pour toi dans le monde d'aujourd'hui? Et toi, membre du carrefour des chrétiens, réalises-tu pleinement, plus que jamais aujourd'hui, je l'espère, ce que cela implique et exige et suscite de porter cette bannière du carrefour des chrétiens Québec pour la santé. Et chers amis, en terminant, ensemble relisons ce passage d'Évangile à Saint-Luc 10, 29. Un légiste dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Et Jésus répondit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin. Il vit l'homme, mais passa à bonne distance. Un lévite de même arriva en ce lieu, il vit l'homme et passa lui aussi à bonne distance. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de l'homme, il le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, tirant 2 pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai. » Et Jésus dit, « Lequel des trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits ?» Le légiste répondit, « C'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit, « Va et toi aussi, fais de même. » Frères et sœurs, ne cherche pas de midi à 14 heures. Ta vocation humaine et professionnelle et ta mission chrétienne ne font qu'un. Ce blessé de la parabole est nul autre que ton propre milieu actuel de travail. Lui aussi est roué de coups, dépouillé, abasourdi. Seras-tu comme ce prêtre ou comme ce lévite qui passèrent à bonne distance? Dans ce rassemblement chrétien, je ne peux m'empêcher d'entendre le Christ nous dire par la voix de nos cœurs, à l'exemple du bon Samaritain audacieux, généreux, spontané, chuchoter à chacun d'entre nous, « Va, et toi aussi, fais de même. »